Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour des provinces, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Bien, vous êtes sur Capi, la fréquence de la vie. Comment bien préparer la prochaine rentrée scolaire? Je disais tout à l'heure que la rentrée est souvent une période difficile pour de nombreux parents. Ils attendent les dernières minutes pour commencer à acheter les uniformes et autres fournitures scolaires des enfants. Et souvent, il y a beaucoup de stress, d'inquiétude. Alors, sur le marché, vous verrez que les vendeurs vont hausser le prix des uniformes et autres objets classiques. Et les parents, parfois, n'ont pas de moyens. C'est un casse-tête chinois, c'est un problème. Alors, comment bien préparer le retour des enfants à l'école sans stress et à quel moment faut-il commencer les préparatifs? Voilà, c'est, on en parle tout à l'heure avec notre invité, Paul Moulin, psychologue et éducateur. Alors, si vous avez des questions et préoccupations par rapport à ces thèmes, n'hésitez pas, le standard est déjà ouvert. Composez le 081-890-63-94 pour participer. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net ou nous envoyer un SMS au 081-711-50-01. 081-711-50-01. Donc appelez-nous déjà, n'attendez pas les dernières minutes, appelez-nous pour participer à cette émission. Et juste après, nous aurons quelques offres d'emploi. Pamela sera là pour vous présenter quelques offres d'emploi qui vont certainement vous intéresser. Donc après, déjà votre carnet et stylo. Et puis nous irons à Matadi pour parler de la dégradation avancée de la route Kisantu Kimvula avec Dani Kinda Ndita. Et puis dans le cas de notre Covid Service Plus, nous allons parler, faire le point sur la mise en charge, la mise en circulation des bus Franco depuis hier dans la ville de la province de Kinshasa. Revenons à notre thème interactif. Comment bien préparer la prochaine rentrée scolaire? Pour Mboula, bonjour.
Bonjour, je dis.
Vous êtes psychologue et éducateur à la vie. Maintenant, l'air est en vacances, les enfants se reposent. Peut-on déjà commencer à parler de la rentrée scolaire pour Mboula Sérieux?
Bien sûr que oui, bien qu'il faut commencer par la préparation des vacances, parce que c'est demain le 2 juillet, officiellement les écoles ferment.
Et la proclamation des résultats.
La proclamation des résultats et les enfants seront déjà en vacances. Et normalement, les parents auraient déjà réfléchi sur la question des vacances. C'est dire que les vacances, ce n'est pas un temps d'une activité, mais c'est un changement d'activité, c'est-à-dire que les enfants auront plus de temps à la maison et pourront éventuellement faire autre chose qu'aller à l'école. Et c'est ainsi ce que les enfants doivent faire, que les parents doivent réfléchir. Dans l'entretemps, on a 2 mois pour se déterminer par rapport à la rentrée des classes. Je connais déjà les difficultés qu'ont les parents à avoir des résultats. On sait que l'année n'a pas été facile en ce qui concerne les charges des parents. Mais on fait avec et on doit aujourd'hui voir ensemble comment arriver à, avec les moyens de bord dont on dispose, à faciliter les vacances des enfants, à réaliser le minimum qu'il faut pour les enfants et en même temps s'assurer que les enfants vont reprendre dans de bonnes conditions l'année prochaine.
Alors, à côté de vacances, il faut déjà réfléchir sur l'année scolaire prochaine. Qu'est-ce que les parents devraient faire exactement?
Déjà, demain, il faut accueillir les résultats, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs.
Oui.
Savoir que les échecs sont aussi constructifs quand on les a bien accueillis. Et si on a très bien réfléchi avec l'enfant pour voir qu'est-ce qui a occasionné cet échec. Vous savez qu'il y a plusieurs causes qui peuvent, dans notre contexte, amener à ce que l'on puisse rater une année ou échouer. Et un parent qui sait qu'il n'a pas correctement ou suffisamment apporté à son enfant pour qu'il réussisse l'année doit aussi se dire un doit se réaménager pour que l'année prochaine il fasse mieux. Mais en ce qui concerne la rentrée, je dis, à partir de résultats qu'on aura demain, on aura à examiner avec son partenaire ou avec l'école, pourquoi pas, hein, ce qu'il faut pour que l'on puisse rentrer et faire rentrer l'enfant dans les bonnes conditions. Je voudrais dire qu'il faudra réfléchir sur les aspects financiers, matériels, ça c'est connu.
Si par exemple l'enfant a réussi, dans certaines écoles, il semble qu'il faut aller confirmer, faire la confirmation. Et il y a certains parents qui sont tentés de faire changer l'enfant. L'enfant est ici, ils veulent l'amener là-bas, tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport au fautardif de la rentrée scolaire.
Il y a plein de choses à faire. Du point de vue matériel, comme je disais, du point de vue financier, ça c'est évident, c'est l'école qui vous dit ce qu'il faudra et ce qu'il faut préparer. En deux mois, peut-être qu'on n'aura pas réuni tout, mais on peut déjà négocier avec l'école pour voir, suivant vos revenus, comment arriver à payer les études l'année prochaine. Mais ce qui est plus difficile pour nous, les communs des parents, c'est de voir psychologiquement qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'enfant puisse bien démarrer l'année. Il y a des enfants qui viennent de commencer les études, notamment ceux de première et de première primaire, et ceux qui changent de niveau, par exemple ceux qui passent en première année secondaire et ceux qui entrent en maternelle. Ces enfants-là ont besoin de savoir, de connaître leur école, ça c'est la première chose, pour se familiariser avec le chemin. Deuxièmement, il faudra qu'ils voient l'environnement dans lequel ils vont étudier et se rassurer avec eux qu'il n'y aura pas d'incident le long du parcours. Parce que nous sommes au temps où on est en train de lutter contre les violences basées sur les genres en milieu scolaire. C'est déjà le moment aussi de faire très attention et de faire prendre moins de risques à l'enfant. Se préparer pour l'année prochaine, c'est aussi voir quelle école est dans les environs, hein, qui ne risque pas d'alourdir vos charges.
Les environs de la maison.
De la maison, oui, qui n'alourdissent pas les charges. Mais en même temps, c'est aussi le temps de voir, de revoir un peu le côté faible de l'enfant. Peut-être qu'il a échoué ou peut-être qu'il a réussi, mais peut-être qu'il pourrait faire mieux. C'est pourquoi il faudra renforcer de temps en temps ses capacités, hein, lui donner le matériel nécessaire pour qu'il puisse apprendre davantage. Ça, c'est du point de vue intellectuel. Mais du point de vue psychologique, je dis, l'enfant doit accepter le résultat avec votre aide et en même temps s'armer pour l'année prochaine. Et pour s'armer pour l'année prochaine, c'est de dire, je suis soutenu par le parent, même si j'ai échoué ou j'ai réussi, mais je crois que je vais faire mieux parce que mes parents se soucient de ce que je fais.
Bien, nous avons un auditeur en ligne, Fidel Kadanga. Il est à Kananga. Bonjour Fidel.
Bonjour Jolie, c'est Fidel depuis la communauté de Kananga.
Hein? On vous écoute.
Je salue Colombo en passant.
Merci.
J'ai des constats un peu amers, mais je suis à Kananga, j'ai constaté que les enfants ne reprennent pas les années. Alors, il y a les gens qui fabriquent des bulletins, il y a les gens qui fabriquent des sauts, ça et là. Un enfant va acheter son même bulletin, on se remet tous les sauts là-bas et puis il va dans une autre école. Donc on contracte sa mère et puis ça laisse le tromboule de ce là. Mais je voulais poser aussi une question à M. Tromboule là. Quelles sont les conséquences sur les plans psychopédagogiques qui peuvent en découler devant un enfant qu'on a bien préparé pour la rentrée scolaire? Et l'autre qu'on n'a pas bien préparé pour la rentrée. Et la deuxième question, je voudrais poser juste à vous, Daniel Gachama, est-ce que vous entendez par les meilleurs de vos capitaux? Alors, une bonne journée.
Pardon, c'est quoi la question?
Est-ce que vous entendez par les meilleurs de vos capitaux?
Les meilleurs?
Oui, parce que souvent vous parlez du meilleur de vos capitaux, est-ce que vous entendez par là?
Les meilleurs, moi je n'ai jamais dit ça.
Les meilleurs de vos capitaux.
Bon, alors, en tout cas, j'ai pas une idée de ce que vous voulez dire. Vous dites que je dis souvent le meilleur.
Oh,
Bon. Bon, je n'ai pas une idée maintenant, parce que je vais y penser prochainement. Bon, c'est à l'invité qui peut adresser des questions pour l'instant. Merci Fidèle d'avoir appelé. Ogi Abendelo est à Kikwit. Bonjour.
Bonjour, je suis désolé parce que je suis notre invité et bonne nuit cette semaine à tous les invités qui nous suivent en ce moment. Merci, je dis de m'avoir accordé la parole. J'ai des préoccupations par rapport au sujet. Je voulais demander à notre invité que peut faire un parent qui n'a pas assez de moyens et dans les écoles où étudient ses enfants, on exige toujours qu'à à la rentrée, il faut que les enfants aient de nouveaux habits. Donc, toutes les choses doivent être renouvelées. Que doit faire un parent qui n'a pas assez de moyens? Et deuxièmement, je voulais demander aussi à notre invité quel conseil peut-il donner aux parents qui, pendant les vacances, qui ne fait rien et dit à ses enfants, débrouillez-vous, tandis que parmi ces enfants-là, il y a aussi des filles qui vont se débrouiller en livrant leur corps en échange d'argent. Alors je vous demande à notre invité quel conseil peut-il donner à ce genre de parents. Merci, Jolie, c'était là mes deux préoccupations.
Bien, merci, Ogi. Paul Moula.
Oui, au sujet de conséquences psycho-affectives qu'on peut observer chez les enfants qui n'ont pas été préparés, nous pouvons dire que un enfant, notamment ceux qui commencent l'école, qui n'ont pas été aidés, auront des difficultés pour s'intégrer. Hein, quels que soient les niveaux, surtout ceux qui sont en maternelle, comme ceux qui sont en première année secondaire et qui changent d'école, ou encore ceux qui sont en première année primaire. Et on va remarquer qu'ils auront des difficultés, mais si l'école est assez habile et assez outillée pour l'intégration des enfants, le premier mois pourrait être difficile, mais puis après, on peut arriver à intégrer l'enfant. Mais déjà, on le remarque qu'un enfant qui a déjà habitué, qui a fréquenté l'école maternelle, qui entre en première, n'aura pas beaucoup de difficultés par rapport à celui qui n'a jamais été à l'école. Cela signifie que la fréquentation d'une école pour celui qui va en première année primaire est déjà une préparation psycho-affective. Mais sinon, ça sera difficile d'y entrer, surtout si c'est un enfant qui est souvent isolé déjà en famille et qui a des difficultés pour s'intégrer dans les milieux communautaires. En ce qui concerne les autres qui sont dans les classes intermédiaires, la difficulté vient essentiellement de l'accueil des résultats. Et si, par exemple, l'enfant n'a pas réussi, on n'arrête pas de le réprimander, de le qualifier d'idiot, et tout le temps, comprenez que un dégoût des études peut en venir. Surtout dans une conjoncture comme la nôtre où beaucoup de diplômés n'ont pas une aisance matérielle, l'enfant peut se dire mais pourquoi est-ce que je suis martyrisé pour une tâche qui ne va rien me rapporter dans la vie apparemment. Alors il faudra que, c'est comme je dis là, ces conséquences doivent être évitées pour que l'enfant puisse tenir jusqu'à ce qu'il puisse terminer les études. Nos ministères sont en train de se battre aujourd'hui avec l'UNICEF pour voir comment maintenir les enfants à l'école jusqu'à ce qu'ils puissent terminer. Cela rejoint également la question d'Ogu qui dit quel conseil faut-il donner aux parents qui demandent aux enfants de se débrouiller. Ogu, avec vous, que vous avez ce souci-là avec nous, c'est pourquoi cette émission, nous voulons dire aux parents qu'il est de leur tâche de leur responsabilité de
préparer la prochaine rentrée scolaire,
d'assurer les droits de l'enfant, et essentiellement les droits aux études. Et ça, c'est une affaire garantie. Les États ont aussi accepté, et particulièrement les nôtres.
Donc, c'est pas correct d'envoyer les enfants aller se débrouiller.
Non, c'est pas normal. C'est vrai qu'on doit considérer l'âge de l'enfant, mais pas pour une exploitation économique. Ça, c'est aussi punissable selon la loi portant protection de l'enfant. Donc, un parent comme celui-là, il faudra peut-être que dans l'avenir, nous prenions des mesures pour que des parents comme ça soient sanctionnés.
Parce que c'est des parents irresponsables.
Ils sont irresponsables parce que c'est vrai qu'ils feraient un effort dans les limites qui sont les leurs pour donner le minimum, okay. Mais dire aux enfants d'aller se débrouiller, d'aller se débaucher, c'est déjà un crime grave.
Bien. John Kalongo est en ligne depuis Lubumbashi. Bonjour, John.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, mon problème, c'est qu'il y en a des écoles, pendant que les parents se préparent pour l'année prochaine, ils alourdissent les choses. On arrive pour l'inscription, on commence à dire non, on a changé l'uniforme, il faut acheter ceci, cela. Pendant que tout ça s'achète au marché, mais à l'école, on donne beaucoup de cahiers pendant que l'enfant lui-même n'est pas en mesure d'utiliser. Imaginez-vous, un enfant de première année, il faut qu'il ait 20, 30 cahiers. Tout ça, bon. Il ne sait pas d'avoir écrit c'est quoi tout. Bon. Alors on a alourdi les choses. Il faut beaucoup de souliers, il faut ceci, tout ça. Bon. On ne comprend pas aussi c'est quoi.
Merci.
Alors, pour la baisse de niveau, ça peut contre les parents aussi, il y en a d'autres qui contribuent. L'enfant a échoué dans cette école, il faut l'amener dans une autre école. On change les bulletins, tout ça, la formalité, on va l'inscrire là-bas. Et après un temps, au niveau de l'université, on va commencer à dire non, il y a baisse de niveau, les enfants. Mais tout au début, là, la fondation est mal. On n'a pas bien donc installé la fondation. Comment on va bien voir une maison bien construite et que cette maison aille vivre pendant longtemps?
Merci John. Voilà, vous l'avez suivi, c'est plein. Et généralement, après, à la clôture de l'année scolaire, les écoles alourdissent. Parfois, là, on revoit à la hausse les prêts scolaires. Voilà, on vend les uniformes, n'allez pas acheter au marché. Il faut venir les acheter ici chez nous, le papier hygiénique, des cahiers, tout ça. Beaucoup de choses, c'est on dirait une forme d'exploitation des parents.
J'en suis sûr aussi. Et je dis, vous allez remarquer que la difficulté, c'est dans nos milieux ruraux où il n'y a qu'une seule école pour tout le monde et l'école fait la loi avec le principe de l'offre et de la demande.
Mm-hmm.
Mais dans des grandes agglomérations, je pense que le parent a le choix. Il a le choix d'amener l'enfant dans une école où on demande extrêmement cher ou de le mettre là où on est capable de
se payer.
Et je pense que à ce niveau-là, il y a un problème de choix. Mais si l'enfant a étudié dans la même école et qu'on ne veut pas changer, il y a une structure qui est en place, malheureusement qui ne fonctionne pas normalement aujourd'hui.
Hein,
le comité des parents. Le comité des parents a été initié pour réfléchir avec les écoles de manière à favoriser la scolarisation de tous les enfants. Le comité des parents qui pourrait éventuellement connaître les familles peut se dire offrir aux familles des possibilités, la possibilité de payer progressivement le frais parce qu'on se connaît, parce qu'on sait, on connaît un tout petit peu les capacités de la famille et on peut comme ça supporter tous les enfants de son milieu. L'individualisme est en train de gagner de plus en plus notre système éducatif et cela est un danger. Parce qu'à la fin,
généralement, on a l'impression que ces comités-là roulent pour les promoteurs des écoles, surtout. On leur accorde des avantages et les enfants ne payent pas les minervales, alors ils défendent pas les droits des autres parents.
Oui, mais cette majorité-là qui n'est pas dans le comité des parents fait quoi par rapport à ce comité? Parce que ce sont des gens qui sont élus par cette majorité. Alors, dans un système démocratique comme le nôtre, on devrait arriver à esclabousser de telles commissions. C'est-à-dire quoi? Je me dis, nous remarquons que le comité est en train de travailler pour l'école, pour le promoteur. Alors, ouais. Nous autres, nous nous réunissons aussi pour dire que ça ne doit pas marcher comme ça. Et je pense qu'il y a des instances qui peuvent arriver à
à nous faciliter la tâche lorsqu'il y a des chocs comme ça qui se manifestent au niveau de la communauté.
Donc on retient pour vous que la préparation de la rentrée n'est pas seulement au niveau financier, mais au niveau psychologique, vous l'avez dit tout à l'heure.
En particulièrement au niveau psychologique, parce que l'enfant, lui, si il peut avoir le matériel, s'il peut avoir les finances, si on peut le rassurer à étudier dans l'école de son choix, on a déjà fait quelque chose. Mais davantage, lui rappeler qu'il est encore élève, il n'est pas en vacances pour flâner et ne rien faire, et pendant ce temps, il peut encore lire, et il peut même participer à d'autres activités qui pourraient éventuellement maintenir de niveau et renforcer parfois ses capacités dans tel ou tel domaine.
On va accueillir Guylain Pierre-Roussou de Béni. Bonjour Guylain. Guylain, bonjour.
Bonjour. Oui, je vous salue, bonjour. Je vous appelle à partir de la ville de Béni.
Oui, on vous écoute.
J'avais une observation adressée à l'éducateur Kormboula.
Oui.
N'est-il pas bon de commencer à faire les uniformes qu'on sort dès la fermeture scolaire, parce que à la rentrée, nous voyons les uniformes qu'on sort grimper, donc hausse les prix.
Merci bien, Kormboula.
Merci Guylain, salut tous les amis de Béni et particulièrement notre amie Nathalie Mbombo qui fête son anniversaire. Et je voulais dire que, comme vous l'avez dit, c'est maintenant déjà qu'il faut commencer cette préparation matérielle. Il n'y a pas que les uniformes, il faut prendre contact avec l'école. Qui vous dira s'il faut acheter un uniforme à l'école ou acheter soi-même et coudre soi-même. Et suivant vos possibilités, peut-être que vous avez mis votre enfant dans une école qui vend les uniformes, vous risquez de gaspiller votre argent si vous devez acheter vous-même et qu'on vous oblige demain à aller acheter à l'école. Nous avons aussi constaté que beaucoup de parents n'achètent qu'un pantalon, une seule chemise pour toute l'année, qui se détériore au deuxième ou troisième trimestre. Il faut se dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'alterner ou d'acheter deux chemises, deux pantalons, acheter un autre pantalon qui pourrait éventuellement aider parce que toutes ne sont pas pantalons. Mais c'est dire qu'il y a moyen de maintenant de voir qui est un petit crayon, qui une latte, qui ne
peut pas de moyens,
ou de moyens pour ça. Ouais. Parce qu'il y a
généralement c'est quand on attend les dernières minutes où ça pèse.
Qu'on se précipite et qu'on a 2, 3, 4 enfants et comme nos familles sont généralement nombreuses, ça fait une difficulté. Certains ont commencé à acheter les objets classiques depuis le mois de mars, avril, ceux qui savaient que l'éducation est une affaire continue, mais ils ne se sont pas arrêtés pour penser à une gomme qui coûte 100 francs au lieu d'attendre, acheter la gomme, les caisses comme on les appelle ici, les chaussures pour élèves. En même temps, payer les prêts, ça fait une lourde tâche à la fin. C'est pourquoi, de maintenant, parents, essayez d'acquérir ce qui est possible dans les 2 mois qui suivent pour que vers la fin vous puissiez vous concentrer sur le prêt scolaire.
Alors malheureusement, John Kalongo qui a posé la question de savoir si un enfant a échoué dans telle école, faut-il le changer d'école, aller l'inscrire ailleurs, parce que c'est ce que font beaucoup de parents, ils vont changer de bulletin, falsifier tout ça pour amener l'enfant dans une autre école parce qu'il a échoué là-bas.
C'est dramatique parce qu'ils se rendent eux-mêmes un mauvais service, parce qu'à la fin de compte, les enfants vont payer de ce comportement-là. Et je pense que la première tâche d'un parent, c'est de se dire, de se demander pourquoi l'enfant a échoué. Est-ce que ce ne sont pas les conditions de vie familiale qui y ont influencé? Est-ce que ce n'est pas l'école, l'ambiance de l'école qui a influencé? Est-ce qu'il n'y a pas eu entre l'école et la maison quelque chose qui a influencé? Donc, il y a plusieurs facteurs qu'il faut examiner avant de se déterminer en ce qui concerne l'échec et d'aller chercher à l'inscrire ailleurs. Si au courant de l'année, on a eu des contacts avec les éducateurs, notamment les enseignants, on pourrait avoir éventuellement les difficultés que rencontre l'enfant. Vous savez qu'il y a aussi certaines maladies qui peuvent arriver à influencer les résultats de l'enfant. Un enfant qui a des problèmes de vision, qui a été placé trop loin du tableau ou trop près du tableau, vous savez que ça peut paraître banal, mais ça peut entraîner un échec scolaire. Alors, si on n'a pas réfléchi avec les éducateurs, il faut aussi se reconnaître responsable dans cet échec. Et alors, c'est le moment de rentrer à l'école, de voir comment améliorer les résultats de l'enfant et qu'est-ce que nous, en tant que parents, nous pouvons faire pour l'aider.
Bien, on retient que c'est maintenant qu'il faut se préparer, la prochaine rentrée scolaire, d'abord du point de vue psychologique, donc il faut, si l'enfant avait échoué, il faut l'encourager, il faut peut-être le mettre dans de bonnes conditions, et puis vous avez dit, il y a aussi l'aspect financier, il faut, avec ces deux moyens, on peut acheter les objets classiques et tout ce qu'il faut hein, pour que l'enfant retourne à l'école dans de bonnes conditions. Paul Mboula, merci, et
c'est moi qui vous
bon début de la semaine.